les podcasts de Radio Vatican.
Au Cambodge, le PSNC, le Parti du Sauvetage National du Cambodge, principale formation d'opposition, devient persona non grata. Sa dissolution a été annoncée par un arrêt de la Cour suprême jeudi 16 novembre. Le PSNC est accusé par le ministère de l'Intérieur d'avoir ourdi un complot contre le gouvernement avec la bénédiction et la complicité de puissances étrangères. Cette décision de la Cour est le coup de grâce donné à un parti depuis longtemps dans le viseur du régime tenu par Hun Sen, au pouvoir depuis 32 ans et pour cause, les bons résultats obtenus par le PSNC aux élections générales de 2013 en ont fait une menace sérieuse pour le Premier ministre, dont la popularité s'effrite. Alors, quelle est la stratégie de Hun Sen? De quel soutien dispose-t-il? Le Cambodge est-il sur le chemin de la dictature? Autant de questions que nous avons posées à Mathieu Guérin, maître de conférence en histoire de l'Asie du Sud-Est à l'INALCO.
Le parti de Kem Sokha et de Sam Rainsy avait, je pense, étonné, inquiété le pouvoir par ses résultats d'élection en 2013. Ça ne s'attendait pas à ce qu'ils aient un résultat aussi bon, puisqu'ils ont eu presque 45% des voix, si je me souviens bien. Plus récemment, il y a eu quelques signes un peu inquiétants pour le pouvoir, qui montraient une certaine popularité de l'opposition. D'abord, les manifestations qui ont suivi lors des funérailles de Kem Lee, qui était un politologue assez critique vis-à-vis du pouvoir, qui a été assassiné en juillet 2016. Cet assassinat avait fortement marqué, je pense, les gens qui étaient plutôt opposés à Phnom Penh et qui sont allés dans la rue. Et ensuite, il y a eu, lors des élections communales de juin dernier, un résultat tout à fait important du parti de Kem Sokha et de Sam Rainsy, puisqu'ils ont eu à peu près un quart des communes. Or, au Cambodge, le contrôle des communes permet d'encadrer de manière assez serrée la population. Tout cela pouvait être interprété comme étant des signes inquiétants pour le pouvoir en place dans la perspective des élections de 2018.
Alors, en 1991, les accords de Paris mettaient le Cambodge sur la voie de la démocratie. Depuis 32 ans, Hun Sen avait plus ou moins joué le jeu, toute proportion gardée. Pourquoi se sent-il libre de ne plus le faire aujourd'hui?
Il n'a pas vraiment joué le jeu, puisqu'en 93, il avait perdu les élections et qu'il avait provoqué une crise politique, ce qui lui a permis de rester au pouvoir et de partager le pouvoir avec le Phnom Penh Pek, qui alors avait gagné les élections. Ensuite, dans les élections de 1998, 2003 et 2008, là, il a gagné plus largement et donc il a réussi, par le jeu démocratique, à légitimer son pouvoir. Parce qu'Hun Sen a quand même aussi des soutiens. Il n'est pas simplement, enfin, c'est pas un dictateur imposé au peuple cambodgien. Il y a des gens qui, au Cambodge, le soutiennent. Alors aujourd'hui, ils voient ce soutien populaire s'étioler et du coup, ils risquent de perdre la main sur le pays. Jusqu'à maintenant, ils devaient composer avec les pays occidentaux qui étaient les principaux fournisseurs d'aide au Cambodge et qui mettaient la question de la démocratie sur la table, notamment les États-Unis. Hein, jouent un rôle important là-dessus pour que le Cambodge accepte un minimum de fonctionnement démocratique. Aujourd'hui, le principal soutien économique et politique du Cambodge, ce ne sont plus les États-Unis, c'est la Chine. Et on le voit de manière très très forte depuis 5 ans. La Chine a toujours été présente au Cambodge, mais depuis 5 ans, l'importance du soutien politique et économique de la Chine fait que le pouvoir peut se passer du soutien des Occidentaux. Et Hun Sen, je crois, l'a dit de manière très très claire pour répondre aux journalistes qui critiquaient la décision de faire interdire le parti de sauvetage du Cambodge.
Alors, question subsidiaire, quel avantage, quel intérêt retire la Chine de son appui économique et politique au Cambodge?
Il y a plusieurs avantages. D'abord, des avantages géostratégiques, puisque en Asie du Sud-Est, aujourd'hui, la grande question, c'est celle du contrôle de la mer de Chine du Sud. Or, la Chine a des prétentions pour dominer l'ensemble de cette mer qui est entre ses côtes et l'archipel malais. Elle s'oppose dans ce cadre-là à d'autres pays riverains de la mer de Chine du Sud, notamment le Vietnam, les Philippines et dans une moindre mesure la Malaisie et l'Indonésie. Avoir le soutien du Cambodge, c'est avoir un pied dans l'ASEAN pour pouvoir défendre l'idée que les prétentions chinoises peuvent être entendues. Et par ailleurs, aussi éviter que l'ASEAN ne s'unisse contre la Chine sur ce dossier. On l'a vu en 2012 lorsqu'il y a eu le sommet de l'ASEAN qui était organisé à Phnom Penh. C'est là qu'on a vraiment vu l'impact de la puissance chinoise lorsque le Cambodge, qui était l'hôte de la conférence, a refusé d'inscrire à l'ordre du jour la question de la mer de Chine du Sud, alors que le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, qui sont tous membres de l'ASEAN, le demandaient.
Hun Sen ne s'attaque pas seulement aux partis d'opposition, il a aussi dans le viseur les ONG, la presse libre. Est-ce que vous partagez ce sentiment globalement assez répandu, qui est de dire que le Cambodge s'achemine sur la voie de la dictature?
D'abord, il faudrait définir ce qu'est une dictature. C'est que aujourd'hui, la presse a encore la possibilité de s'exprimer au Cambodge, même si le Cambodia Daily a été fermé à la fin de l'été. Les réseaux sociaux peuvent encore fonctionner. Il y a encore un débat politique qui est possible. Et le Cambodge n'était pas une démocratie telle que nous, on entend la démocratie, c'est-à-dire avec une séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, on l'a vu avec la décision qui a été rendue récemment, reste très largement affecté au pouvoir politique, comme ça a toujours été le cas dans toute l'histoire du Cambodge, y compris lorsque les Français assuraient la protection du royaume. Donc il y a un glissement vers un régime plus autoritaire. C'est un glissement qu'on rencontre dans d'autres pays de la région, hein, comme la Malaisie ou les Philippines. Après, est-ce que ça ira jusqu'à la mise en place d'une dictature qui imposera un contrôle fort de la population? Ça, on le verra plus tard. Il faudrait déjà aussi que pour que ça puisse se mettre en place, que l'État cambodgien ait les moyens de le faire, ce qui est loin d'être le cas.
Dernière question peut-être sur l'avenir du Parti du Sauvetage National du Cambodge. Est-ce qu'il est fini complètement ou est-ce qu'il dispose quand même malgré tout d'une petite marge de manœuvre et si oui, laquelle?
Là, il faudrait demander à des juristes, hein, parce que je ne veux pas vous dire, j'imagine qu'ils peuvent faire appel de la décision qui a dissous le parti. Après, ce qui est important dans ce parti, c'est pas tant le parti en lui-même que les réseaux de personnes qui le constituent. Notamment l'alliance entre Kem Sokha, qui est aujourd'hui emprisonné, et Sam Rainsy, qui lui est en exil. Donc c'est ces gens qui sont dans l'opposition qui peuvent probablement essayer de reconstituer un autre parti avec peut-être d'autres figures, même si Kem Sokha et Sam Rainsy ont réussi à obtenir une certaine popularité, à aller auprès des électeurs. En 2013, ils sont vraiment bougés pour aller à la rencontre des électeurs. Et là, ils ont un capital de soutien populaire qui pourrait manquer à un nouveau parti d'opposition.
Des propos recueillis par Manuela Afigi.